Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. C'est la première émission à l'heure du printemps, donc on est en pleine forme, on va vous apporter encore beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et je l'avais rencontré, pratiquement le premier jour d'hiver, au moment des championnats de France d'escrime à Coubertin, c'est Nicolas Piofrey, donc le président du club escrime Tour Auvergne de Paris. J'avais promis de vous inviter, Nicolas, merci pour votre venue et bonsoir.
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation.
Ça va, tout va bien depuis le mois de décembre ?
Impeccable.
Très bien, ok. Et puis, je veux saluer l'équipe qui m'entoure ce soir. Alors, équipe un petit peu réduite. Il y en a deux qui ont déserté, qui sont à l'école. Je vais saluer Vanessa. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Philippe. Ouais. Comment
Ça va très bien. Alors, en dehors de l'escrime, Vanessa,
on aura qu'un tabouret tout à l'heure, donc qui avec a été médaillé d'or sur le 10 km classique en ski de fond.
Oui, voilà.
En paraski de fond.
Je sais que vous faites aussi beaucoup pour les paras, donc on aura l'occasion de faire le lien et d'en parler. Bonsoir Stéphane Sorando.
Bonsoir Philippe, bonsoir
à tous.
T'es en pleine
forme ?
Oui, oui.
Tu t'es bien régalé, l'actu sportive encore très dense.
Oui, très très dense.
Beaucoup de choses et je sais que tu as des coups de cœur, coups de gueule à nous donner.
Ça fait longtemps d'ailleurs.
Voilà. Bon, on va commencer et puis on retrouvera naturellement le point fou de notre ami Stéphane Desenclos. Et puis Vanessa, elle a beaucoup travaillé cette semaine, donc elle nous fera le point. Le journal des sports, exactement. Oui, journal des sports, comme d'habitude, très 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 dense, très très chargé, parce qu'on est vraiment la radio de tous les sports et on y tient. Voilà, donc on essaie de rien oublier. Nicolas, pourquoi l'escrime ? Ça arrive comment dans votre vie ?
Alors, c'est arrivé très tôt, à 5 ans et demi.
Ouais. 5 ans et demi,
j'ai découvert l'escrime un mercredi après-midi. Et donc ça a été une révélation parce que beaucoup d'engagement, des lumières, du bruit sur la piste, une opposition, du combat. Et donc je me suis lancé à corps perdu, je dirais, dans cette discipline que je pratique encore.
Oui, je sais. Alors, bon, c'est une question souvent bateau, on le dit souvent. Les jeunes ont souvent été influencés par les films de Cap et d'Épée à l'époque.
C'est vrai.
C'était votre cas ?
Pas du tout.
Ah bon ?
Pas du tout. J'ai eu la chance, en fait, d'entrer dans une salle d'armes et donc de découvrir, pour de vrai, je dirais, cette discipline. Je n'ai pas été ou assez peu influencé par Zorro ou autre.
Oui.
Mais beaucoup d'enfants viennent à l'escrime grâce au film de Cap et d'Épée.
Et comment ça se passe, cette entrée dans cette salle d'armes ? Dans quel contexte ? Est-ce que c'est votre père, vos parents peut-être qui vous y emmènent ? Comment ça se passe ?
Alors, ça n'a pas été mes parents.
Oui.
Je faisais du sport pour tous le mercredi après-midi dans ma ville, dans les Yvelines, le Vésinet.
Oui.
Et donc, tous les mercredis après-midi, on s'essayait à une nouvelle pratique sportive. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Génial.
Et donc, par cet intermédiaire-là, j'ai rencontré l'escrime un mercredi après-midi et j'en suis tout de suite tombé amoureux.
Voilà, c'est ça, et c'est parti pour une très longue histoire d'amour.
Absolument.
Ouais, qui continue d'ailleurs. Vous l'avez dit, vous pratiquez et vous êtes en plus président, quoi.
Absolument. Je suis toujours pratiquant, compétiteur. On y reviendra peut-être.
Vice-champion du monde,
m'a dit. J'ai intégré l'équipe de France vétérans il y a 2 ans. J'en suis vraiment très fier. Ça me donne d'autres objectifs, une autre carrière sportive. Et puis, je suis président du club d'escrime de la Tour d'Auvergne depuis quelques années maintenant.
Bon, comment on arrive à la présidence ? C'est un petit peu porté par les circonstances ou...
Un peu par les circonstances. Un président qui démissionne, un secrétaire général également. J'étais vice-président. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai une activité professionnelle dense qui m'occupe beaucoup, ainsi que ma petite famille. Donc j'ai réfléchi, mais on y est allé en équipe et franchement, je le regrette pas.
Et justement, d'être des deux côtés de la barrière, pratiquant et puis dirigeant, donc de l'autre côté, c'est complémentaire, c'est bien.
Ah oui, ça permet de voir...
Parce que souvent, quand on est pratiquant, on critique le bureau dirigeant, il y a des choses qui échappent.
C'est pas faux. En tout cas, en étant sur piste toutes les semaines, j'ai un accès direct aux commentaires, à ce qui va bien, ce qui va pas bien. Après, j'aimerais y consacrer plus de temps. mais c'est compliqué. Je m'étais toujours dit, tu feras ça quand tu seras à la retraite. Et puis, j'ai été pris par le virus. Ouais. Et c'est vrai que j'adore ça. Après, c'est une question d'organisation et de priorisation des objectifs. Mais c'est super de relever tous les challenges.
Oui, et puis, c'est une activité quand même passionnante. On œuvre, on agit pour quelque chose, quoi.
Ah oui, absolument.
On essaie de faire avancer les choses, quoi.
On fait grandir des enfants, on fait grandir des arbitres également, des éducateurs et bien sûr des compétiteurs.
Oui. Alors toujours dans ce club Escrime de la Tour d'Auvergne, alors d'abord ça n'a rien à voir avec la région, hein, faut le dire.
Ça n'a rien à voir avec l'Auvergne.
Expliquez-nous un petit peu l'historique de ce club. Moi je le sais, je l'ai lu hein, en préparant cette émission, mais...
Alors, le club s'est installé dans le 9e arrondissement à la fin du 19e siècle. Ouais. Il s'est installé rue des Martyrs et le club était quasiment à l'angle entre rue des Martyrs et rue de la Tour d'Auvergne.
Voilà.
Et le maître d'armes à l'époque aurait dit « je ne veux pas faire de mes escrimeurs des martyrs ».
D'accord.
Et donc, on ne va pas s'appeler l'escrime martyr, mais l'escrime de la Tour d'Auvergne.
D'accord. Oh. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est bien, hein, c'est beau. Hein,
ouais, c'est beau.
Ouais. Ah, oui. Ça fait aussi partie de l'escrime, hein, ces légendes, ces histoires. Hein. Et alors donc, aujourd'hui, vous êtes un des clubs les plus importants quand même hein, sur Paris. Hein. Phare, hein, faut le dire.
Oui, on est un club très important à Paris depuis de longues années, de par notre palmarès, mais aussi de par le volume d'escrimeurs. On a régulièrement entre 500 et 600 tireurs. Par an. Alors, on fait de l'escrime sportive, puisqu'on est environ 350, mais il y a également d'autres sections qui accompagnent ou qui intègrent l'escrime de la Tour d'Auvergne. Et donc, je pense à l'escrime de théâtre,
de
l'escrime médiévale, du béhour, de l'épée longue. Enfin, voilà, beaucoup d'autres pratiques.
Je suis intéressé, là, par contre, sur les différentes sortes d'escrime. Parce que moi, en termes de vue de l'escrime, je n'ai que la vue de l'escrime sur piste.
Mais
je ne savais pas qu'il y avait d'autres activités à l'escrime.
C'est du loisir ?
Non, aujourd'hui, il y a des compétitions qui se montent également sur l'escrime artistique, l'escrime... médiéval également. Donc, alors je ne suis pas féru. Enfin, c'est pas ça. Pardon.
Oui.
C'est que je pourrais mieux vous parler de l'escrime sportive que de ces disciplines-là.
Oui, donc, on va pas trop rentrer dans les détails.
Mais c'est pour vous dire en fait que au sein de notre club, on peut pratiquer plein de choses.
D'accord. Ok. Ça veut dire que dans votre club, on y rentre, on prend une licence. Elle est de combien d'abord ?
Alors, la cotisation est d'environ 600 euros.
Ouais, à l'année ?
À l'année, ça comprend la licence Fédération Française d'Escrime. On a une particularité, c'est que pour l'escrime sportive, on vous propose de venir quasiment tous les jours, du lundi au samedi. Vous pouvez choisir votre créneau, vos créneaux. Et donc, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a quand même peu d'associations sportives, peu de clubs à Paris qui offrent autant de possibilités de créneaux pour les enfants jusqu'aux adultes.
Et après, on choisit donc ça, j'allais dire, en quelque sorte... sa spécialité. On reviendra sur les armes tout à l'heure, mais par exemple, les sortes d'escrime dont vous venez de nous parler, ça on le choisit, on dit voilà, moi je veux faire que ça.
Alors, pour l'escrime sportive, nous, on commence au fleuret.
Oui.
Et après, si d'autres personnes veulent faire de l'épée longue ou du béhour ou autre, elles iront plutôt à l'adolescence.
Pourquoi le fleuret ?
Pour ma part ou pour le club ?
Pour votre part d'abord et après pour le club, parce que vous êtes spécialisé. On est obligé de choisir une arme assez tôt hein, en escrime. Hein.
Oui, on est obligé de se spécialiser. Après, pour un club, c'est très difficile de gérer deux calendriers, fleuret, épée ou sabre, parce qu'il y a des compétitions toute l'année. Donc, il vaut mieux se concentrer en fait sur une arme. Comme ça, déjà, on ne se fait pas concurrence entre nous.
Eh oui.
Et puis, le fleuret, c'est aussi l'arme d'initiation. Qui permet ensuite d'aller vers le sabre ou l'épée ou de rester au fleuret. Donc, on y apprend toutes les techniques fondamentales de l'escrime.
Alors, on va rappeler un petit peu, très brièvement pour les auditeurs, les particularités du fleuret, du sabre et puis de l'escrime. Alors, le fleuret.
Alors, le fleuret, c'est une arme de convention. Donc, il y a des règles. Celui qui a la priorité, c'est celui qui allonge le bras. Pour récupérer la priorité, il faut parer le fer, donc faire une parade et puis réallonger le bras derrière. Et puis après, il y a les surfaces valables qui sont un petit peu différentes. Donc le fleuret, c'est globalement tout le corps, sauf les jambes, les bras et la tête.
Ouais, c'est ça.
Et puis le fleuret, on peut toucher qu'avec la pointe.
Voilà. Ouais.
Voilà. Au sabre, c'est un petit peu différent. La surface valable, c'est au-dessus des hanches. vous pouvez toucher avec la pointe de la lame et le tranchant de la lame. Et puis pareil, comme le fleuret, c'est une arme de convention, c'est celui qui allonge le bras qui a raison. L'épée, c'est un peu différent, on touche qu'avec la lame, et par contre, on peut toucher tout le corps de l'adversaire, et il n'y a pas de convention, c'est le premier qui touche qui marque.
Mmh. Mmh. Alors la plus technique, la plus physique, pour les spécialistes que vous
êtes. C'est une excellente question. Ouais. On va dire que l'arme la plus agressive, en tout cas celle qui demande des qualités de vitesse et d'explosivité, c'est le sabre. Mm-hmm. Parce que très, très souvent, en fait, c'est celui qui va attaquer, qui va marquer le point. C'est... L'épée, il faut être très tactique. Il faut beaucoup observer son adversaire. Ça ne sert à rien de partir comme en sabre, puisque l'autre, il pourra très bien en fait, vous toucher en même temps et faire coup double. Donc ça nécessite de la technique, de l'analyse, de la stratégie. Et puis le fleuret, c'est extraordinaire parce que ça réunit toutes les qualités des deux autres armes. Donc oui, je suis un peu chauvin pour le fleuret, mais c'est vraiment une arme qui permet tout à la fois d'imposer ses qualités, d'analyser les forces et les faiblesses de l'adversaire.
Ouais. Et on le répète, il faut se spécialiser très tôt. Après, c'est trop tard.
Oui, c'est
par
mieux.
Par exemple, un champion de sabre ou de fleuret, il pourrait être champion d'épée s'il s'y mettait un peu après.
C'est très rare qu'aujourd'hui, en fait, on trouve des escrimeurs qui soient très bons aux deux armes. Ça se déroulait encore il y a quelques dizaines d'années comme ça, ou au siècle dernier. Maintenant, on va dire que les grands champions sont complètement spécialisés dans une arme.
Ouais. Alors, vous parliez de vos infrastructures. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Oui. C'est où?
Alors, on est rue Buffault. Oui. Entre Cadet, Notre-Dame-de-Lorette et le métro Le Pelletier. D'accord. Donc on est vraiment en plein cœur de Paris. Mmh. On a une salle d'armes qui est sur trois niveaux. Les deux premières salles consacrées en fait à l'escrime sportive et puis la dernière salle qui est une salle polyvalente qui peut accueillir tout type d'escrime. On a deux salles qui sont vraiment dédiées à l'escrime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres associations, puisque là, on a du matériel qui nous est propre. La salle polyvalente, elle, est ouverte à d'autres associations.
Donc, vous l'avez dit, des créneaux 7 jours sur 7, et puis ça commence à quelle heure? 7h le matin jusqu'à 23h, non?
Alors, non, ça dépend. Ouais. Pour l'escrime, par exemple, qui propose de former des acteurs au théâtre, est ouvert toute la journée du jeudi, parce qu'elle va travailler avec des professionnels. Nous, dans l'escrime sportive, on va plutôt travailler avec des enfants à partir de 17h, donc à la sortie des classes. Et puis, ça s'arrête jusqu'à 22h30, tous les jours. Et puis, on ouvre aussi le samedi pour le baby escrime. Ça, c'est une offre qu'on a ouverte il y a quelques années pour les jeunes.
Combien, 4 ans, 5 ans?
Voilà, 4-5 ans pour les moyennes sections, grandes sections.
Voilà.
Absolument. Et donc, c'est super parce que les parents, en début d'année, sont un peu perdus. Ouais. Ils ne savent pas quoi faire en fait, à leurs enfants. Et nous, on propose une offre pour les moyennes sections.
Mm-hmm. Et ça va, ils arrivent à se motiver, les enfants?
Ah, mais c'est super. Alors,
c'est ludique, alors après, c'est le rôle. Voilà.
Exactement. Ils ne se mettent pas tout de suite au combat. Mm-hmm. Ils apprennent à travailler dans l'espace. Ils apprennent à s'équilibrer. Ils font beaucoup de jeux. Et puis, petit à petit, ils en arrivent à l'escrime.
Ouais. Autant de filles que de garçons?
On a un petit peu plus de garçons, mais on travaille beaucoup sur la féminisation du sport.
Ouais.
Et voilà, on s'y attache. On a quand même plus d'une centaine d'escrimeuses dans notre section d'escrime sportive qui compte environ 350 personnes. Donc, l'année dernière, on était à 150 femmes pour environ 350 escrimeurs en section escrime sportive.
On en parlait en off. Bon, naturellement, l'escrime, ça ramène toujours des médailles aux Jeux. C'est même le sport qui a été le plus gros pourvoyeur de médailles dans l'histoire des Jeux d'été. Donc, il y a un afflux de pratiquants et de pratiquantes qui vient. Ça a été votre cas après les Jeux d'été de 2024?
Après les Jeux de Paris, comme quasiment tous les clubs d'escrime, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'enfants qui viennent découvrir l'escrime. Ça, malheureusement, ça retombe un petit peu entre deux Jeux Olympiques parce que l'escrime est très exposé pendant les Jeux Olympiques et puis quasiment plus du tout entre deux Jeux Olympiques.
Ça
n'a
pas beaucoup changé, malheureusement. Mais au niveau des infrastructures, c'est correct ou alors ça manque un petit peu quand même, la dimension elle est un petit peu réduite?
Alors, c'est un sport qui est idéal pour être pratiqué en ville.
Oui.
Parce que alors ça nécessite quand même des pistes de 14 mètres de long.
Oui, c'est pour ça.
Mais ça veut dire qu'on peut faire de l'escrime pas nécessairement dans un grand gymnase. Nous, par exemple, rue Buffo, la taille du gymnase est un demi-gymnase.
Ah oui ?
Et on peut très bien mettre plusieurs pistes de façon parallèle. Donc, voilà. Donc, ça se pratique très, très bien en ville. À Paris, on va dire, tous les clubs ou quasiment tous les clubs sportifs sont dans des infrastructures municipales. Et puis après, voilà, vous avez beaucoup de grands clubs dans les grandes villes en France.
Mais vous n'avez pas ce problème de manque, je veux dire, d'infrastructures pour votre club. Vous pouvez le dire, on les connaît très bien, ils nous écoutent, ils sont venus il y a quelques semaines.
Alors, donc, non, vous avez tout à fait raison. Il y a quand même des...
Tous les clubs franciliens le disent, c'est le problème.
Oui, par exemple... un club à Paris qui est logé sous une piscine et qui peut avoir des problèmes d'infiltration.
C'est possible, ça ?
Oui.
Normalement, c'est logé sous une piscine, mais sur le plan juridique, c'est normalement, ça devrait être illégal, ça.
Ou un club qui est régulièrement inondé par la Seine. Voilà. Donc ce sont quand même des problèmes. Ou des gymnastes qui sont réquisitionnés par la mairie
Pour d'autres choses, oui.
Pour d'autres objectifs. Donc ça, c'est un sujet. J'avoue qu'on est très privilégié dans notre club. Rue Buffo dans le 9e arrondissement et là on a une structure qui est vraiment dédiée à l'escrime et qui est ouverte tous les jours. On a une chance assez exceptionnelle, je l'avoue.
Combien de maîtres d'armes ?
Alors pour l'escrime sportif, on a 3 maîtres d'armes et puis en tout au sein de la Tour d'Auvergne, il faut rajouter 5 autres maîtres d'armes. Donc environ 8 pour pratiquer l'ensemble des disciplines.
On l'a dit, vous êtes un des clubs phares de Paris, donc un des clubs les plus titrés.
Alors, on a été très, très présents sur la scène nationale et internationale dans les années 80-90, avec des participations aux Jeux Olympiques et bien sûr aux Championnats du Monde. Depuis 20 ans, on est plutôt un club formateur.
Ah oui.
Mais qui arrive à se maintenir en première division, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc, on est un club historique, toujours présent au plus haut niveau. Malheureusement, on n'a pas les meilleurs de France.
Oui, il n'y a parce pas que de grand nom actuellement. Quoi.
Non, ça nécessite des moyens, des subventions. Voilà, il y a d'autres départements France qui récoltent beaucoup plus de subventions.
Alors justement, c'est intéressant. Est-ce que dans l'escrime, il y a aussi des mercatos ? Est-ce qu'on essaie de, je ne veux pas dire spier, j'aime pas trop ce mot-là, mais est-ce qu'on essaie de convaincre un autre escrimeur à venir le rejoindre, quoi.
Le mercato.
On essaie de convaincre pour venir, quoi.
Ça existe.
Avec d'autres moyens.
Ça existe. Ouais. Voilà, après, c'est une question de moyens. Oui. Alors, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux qu'au football. Hein.
Bien sûr.
On est bien d'accord. On essaye, mais après, c'est vraiment l'ambiance, la réputation du club, la qualité des maîtres d'armes qui vont faire la différence.
Oui. Qualité, ça, c'est important. Hein.
Ouais.
Donc, il faut rappeler que c'est des métiers dont on peut vivre, hein, maître d'armes. Hein. On en vit complètement. Hein.
C'est-à-dire que
ces métiers-là, on peut en vivre dans...
On a des maîtres d'armes qui sont vraiment dédiés à leur activité toute l'année.
Français, étrangers, non ?
En France, on a des très bons maîtres d'armes français. On va assez peu chercher les maîtres d'armes
pas
étrangers.
Pas d'italien, pas d'hongrois.
Non, mais je dirais que le maître d'armes français s'exporte, par contre.
Voilà, c'est pour ça que je posais la question.
Et vous avez Erwan Lepechou qui entraîne l'équipe du Japon. Vous avez Franck Boisdin qui a beaucoup œuvré aussi en Asie. Vous avez Grégory Koenig qui est le maître d'armes du dernier champion olympique. Voilà, donc on est plutôt à exporter nos maîtres d'armes plutôt que l'inverse. Et en France, on a quand même globalement une très, très bonne formation.
Comment vous expliquez justement régulièrement à chaque Olympiade ces bons résultats ? Ce sont les efforts faits au sein des clubs. La fédération qui sait réemployer ses anciens champions, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les fédérations.
Oui, vous avez une transmission très, très clairement dans le sport. Vous avez une culture escrime. C'est un sport qui est très présent dans notre société, culturellement, historiquement, politiquement. On est un sport olympique depuis 1896, donc 130 médailles. Donc effectivement, ça...
Considéré comme un sport de combat d'ailleurs, l'escrime.
Oui.
Ouais, paradoxalement. Hein,
Oui, mais en fait, vous avez beaucoup de similitudes avec la boxe. Vous mettez en garde, vous avez une distance à respecter par rapport à un adversaire. Vous allez parer, vous allez esquiver, vous allez contrer. Donc beaucoup de similitudes avec un sport de combat. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que dans un sport de combat, vous allez imposer vos qualités et puis il faut être très très observateur pour jouer aussi sur les forces et les faiblesses de l'adversaire.
Oui, non mais bien sûr. Alors on en parlait aussi avec Stéphane, il y a beaucoup maintenant de jeunes, des dom-toms qui viennent et qui pratiquent ce sport, hein, qui viennent pratiquer ce sport. Ça c'est un vivier, un réservoir intéressant, ce qui est un phénomène quand même relativement nouveau depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années. Hein.
Oui, oui, bah vous avez de grands champions issus des Antilles, notamment Enzo Lefeur, Isaora Tibus, les frères Jeannet à l'épée. Oui. Voilà, en fait, la liste est très très longue.
La guêpe.
Hein, voilà. Oui. Voilà. Moi, j'ai la chance de voyager un petit peu et d'aller en Guadeloupe tous les ans.
La guêpe,
absolument. Et donc, vous avez un crêpes, par exemple, en Guadeloupe, qui permet aux meilleurs Antillais de venir s'entraîner. Et puis après. Voilà, à 16-17 ans, ils viennent en métropole, dans les infrastructures type Krebs à Châtenay-Malabry, puis à l'INSEP, s'ils touchent le plus haut niveau.
Bah, dans ces cas-là, ce qui serait bien, ce serait de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que, voilà, on a cité de très très bons escrimeurs par le passé qui ont écrit l'une des plus belles pages du sport français et même de l'escrime française. Mais en termes de retour sur investissement dans le sport entier, que ce soit dans les dom-toms, hein, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et tant d'autres, on aimerait quand même voir un petit retour sur investissement. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Ouais. Juste comme ça.
Et puis tu sais que c'est un sport où tu peux devenir ministre. Hein.
Bien sûr.
Hein, la preuve, Jean-François Lamour et puis.
Laura Flessel.
Laura Flessel, la guêpe justement.
Ouais.
Comment ça se passe pour les équipements? Alors, c'est à la charge des pratiquants? Le club fournit certaines choses?
Alors. C'est une bonne question parce que l'équipement d'escrime est onéreux. Oui. Voilà, un fleuret, un masque, une tenue, c'est plusieurs centaines d'euros. Nous, dans notre club, il y a beaucoup de clubs qui fonctionnent comme ça, c'est qu'ils achètent du matériel et puis ils le prêtent ou ils le louent. Ils peuvent le prêter en début d'année. Ça permet aux enfants, après quelques séances, de se fixer sur cette discipline ou non. Nous, par exemple, le matériel, il est compris dans la cotisation pour les enfants, donc moyennant quelques euros de plus. Ils ont un masque, un fleuret et une tenue à l'année. Et c'est eux qui sont responsables de leur équipement. Ça fait vraiment la différence parce que c'est complètement idiot d'aller investir des centaines d'euros pour peut-être ne pas pratiquer.
Ça peut coûter assez cher d'ailleurs. Dans le 13e, avant, il y avait un magasin d'escrime qui depuis a fermé ses portes, mais il était pas loin de chez moi. Voilà. L'équipement, est-ce que justement ça... Enfin, le prix évolue avec la hausse de niveau et combien ça peut coûter à peu près quand finalement on décide d'acheter son propre équipement.
Alors pour un débutant, tout compris, je dirais, il faut peut-être compter entre 600 et 800 euros.
D'accord, oui. Ce qui est quand même un investissement.
Ce qui est un investissement. Après, lorsqu'on fait de la compétition, ça peut aller beaucoup plus haut parce que vous allez casser des lames.
Oui, donc vous avez des armes. Il en faut plusieurs des armes.
Ah, il en faut plusieurs. Ah, oui. Pour pratiquer la compétition, il faut au moins 3, voire 4 lames fleurées.
Oui.
Ah ben non. Pardon, ça c'est à chaque fois qu'on se présente en compétition, il faut au moins 3 à 4 armes. Mais pendant une compétition, vous pouvez avoir de la casse.
Oui,
donc il faut renouveler son matériel.
Bon, c'est comme les raquettes de tennis, hein, c'est pareil.
Exactement. Et donc plus vous pratiquez, plus vous avez une chance d'abîmer le matériel. Et donc il faut renouveler très régulièrement son équipement. Mais il y a une solution pour ça, c'est les Noëls, les anniversaires,
avoir
un bout de tenue, un masque.
Ce que vous dites, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Karim Lagouag, qui est champion olympique en équitation, et puis qui racontait que quand il était petit, il allait sur le salon du cheval et que souvent ses parents lui offraient des cadeaux à Noël. Voilà, dans des sports assez onéreux comme l'équitation, l'escrime quand même, parce que c'est quand même un investissement, 600 à 800 euros.
Et ça, c'est quand on fait de la compétition.
Oui, quand on fait de la compétition. Mais au début, comme vous l'avez très bien souligné, les clubs prêtent le matériel, ce qui permet de pouvoir bien progresser et puis après, peut-être de se fixer sur le matériel qu'on va aller acheter.
Absolument. Voilà,
Non, puis il y a un problème, c'est que quand un petit fait de l'escrime, il va grandir.
Oui.
Donc il va falloir qu'ils rechangent de matériel.
Alors nous,
et d'équipement, je veux dire. Ouais.
Nous, on aide les enfants.
Ils peuvent se les revendre entre eux.
Oui,
ça
bien
se
sûr.
Fait dans les arts martiaux, hein, dans le judo.
Oui, bien
dans
sûr.
Le...
On peut se revendre. Et certains clubs organisent des bourses aux vêtements.
Oui.
Et je dirais que nous, jusqu'à 14-15 ans, on facilite l'accès aux équipements pour les jeunes. Voilà, c'est compris dans la cotisation.
D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu des résultats. Bon, même si vous êtes devenu, vous l'avez dit, plus un club formateur, ça se passe bien cette année-là ?
Alors, on est content, on est heureux de cette saison. On se prépare pour les prochains championnats de France par équipe, oui. en élite. Oui. Donc, puisqu'on est présent à la fois chez les dames et chez les hommes. On a réussi chez les hommes à qualifier... un escrimeur au CIP, qui est la Coupe du Monde de fleuret à Paris au mois de janvier.
Il y a eu ça au mois de janvier à Paris, ouais. À Coubertin encore, ouais.
Et puis je vous parlais de notre club en tant que club formateur. Tous les ans, on a un jeune qui part en Coupe du Monde, qui est sélectionné dans les équipes de France. Cette année, on avait une M17, donc une jeune femme de moins de 17 ans, qui a été sélectionnée, qui nous arrive très très fréquemment. On est satisfait. Et puis on est présent chez les jeunes, mais jusqu'aux vétérans que je représente,
voilà, bah c'est
puisque
bien.
On a un de nos escrimeurs, mon vice-président d'ailleurs, qui a fini troisième au dernier championnat du monde.
Oh. Mais c'est dans l'ADN du club.
Absolument,
alors,
absolument.
On est deux côtés.
Moi, j'ai fini
et
deuxième l'année précédente dans ma catégorie d'âge, et Jessie, pour ne pas le nommer, a été champion du monde par équipe avec l'équipe de France vétérans.
Alors, c'est un sport individuel, on dit qu'il peut être collectif, hein. On voit souvent donc les compétitions par équipe. Ouais, oui. Et puis, plus de mental ou de physique ?
Alors, c'est un sport qui demande beaucoup de qualités, évidemment comme d'autres sports, mais des qualités physiques, athlétiques, des qualités en effet mentales.
Donc, il faut une préparation en parallèle. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on mange quand on fait au niveau, il faut faire attention.
Il faut le dire au grand public.
Il faut le répéter au grand public.
Mais je voulais juste ajouter deux dimensions importantes. Oui. Le caractère technique.
Oui,
parce que il faut faire ses armes, je dirais. Donc, travailler en face à face avec un maître d'armes, être beaucoup dans le rythme de l'assaut, et puis beaucoup de qualités tactiques également, mettre en place une stratégie, ça c'est très important.
Et quand vous rentrez là, il y a un peu d'intox entre vous ?
De l'intox ?
Ah bah entre vous, on essaie un petit peu de qu'on rentre tous les deux là sur le...
Sur la piste ?
Ouais.
Sur la piste d'escrime ?
Ouais, on essaye un petit peu de...
Alors il y a un peu...
Parce que le mental, il commence là, hein. C'est un petit peu comme les deux boxeurs qui vont rentrer
avant
le ring.
Oui, mais contrairement à la boxe, on est vite masqué.
Quand on est masqué, de faire un peu de trash talking.
Oui,
c'est
mais jusqu'au salut, ouais. jusqu'au ouais. salut, ouais. quand ouais. on se salue, quand on se branche, ouais. quand ouais. on salue l'arbitre, ouais. là, on peut avoir des regards très très appuyés.
Voilà. Ouais.
Mais une fois qu'on a mis le masque, je dirais que, et c'est ça qui est aussi génial dans notre sport, c'est que moi, quand je fais de l'escrime contre un jeune, eh bien, on a gommé nos différences parce que on est un peu dans notre uniforme d'escrimeur, tous les deux derrière un masque et on
il y a pas la notion d'âge là.
Quelqu'un d'extérieur en fait peut plus identifier si la personne a 20 ans ou 40 ans ou plus. Donc c'est ça qui est assez génial. On peut tirer contre des jeunes, contre des plus vieux, et puis il y a beaucoup aussi de matchs. En tout cas, au sein de clubs, entre les hommes et les femmes.
Oui, alors ça, c'est un des sports qui peut être mixte.
Sans problème.
Où il n'y a pas un problème de poids, un problème de puissance.
Aucun. Aucun problème. Après, en compétition, les compétitions ne sont pas mixtes. Par contre, tous nos entraînements sont mixtes.
Mais ça pourrait le faire un jour, ça ?
Je crois que ce n'est pas prévu.
Hein. Ouais, non, je ne vois pas ça.
Il y a quand même des qualités de vitesse qui ne sont pas tout à fait les mêmes.
C'est ça.
Par contre, après, les qualités techniques peuvent être totalement équivalentes. Mm-hmm. Le mental également. C'est ça qui est intéressant, qu'il y a beaucoup de dimensions. Mais les qualités, je pense, physiques feront que ce sera quand même compliqué d'avoir des compétitions mixtes. Donc, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas.
D'accord. Alors, il y aura bientôt une fête des jeunes. Loin d'ici.
Absolument, 13-14 juin, fête des jeunes, donc c'est l'équivalent des championnats de France pour les moins de 15 ans, donc à la Halle Carpentier, et j'invite tous ceux qui veulent découvrir l'escrime à y aller.
Oui. Et vous organisez beaucoup d'épreuves, vous, sur Paris, dans votre salle, ça vous arrive ?
Alors, pas assez, on organise beaucoup de tournois pour les jeunes du club, donc à Noël, Pâques et fin d'année. Après, il faut disposer d'une infrastructure. Et ça passe par un système de réservation dans la ville de Paris qui est Ouais. Pas toujours facilité. il vaut mieux avoir dans son propre arrondissement une belle infrastructure. C'est beaucoup plus simple, comme c'est le cas, par exemple, dans le 13e arrondissement.
Et en préparant l'émission, j'ai vu aussi qu'il y avait les prochains championnats d'Europe au mois de juin.
Oui, à Antony.
Du 16 au 21 sur Antony. Ça, c'est une bonne nouvelle.
À Antony, la Fédération française d'escrime a récupéré l'organisation de ces championnats d'Europe. Pareil, Antony, c'est très accessible par le RER. Donc, il faut y aller. Il y aura tout le gratin européen pour ces championnats d'Europe.
Très bien. Je vais vous laisser souffler. Hein. On va marquer une petite pause musicale. Alors, comme je sais que vous aimez tous les sports, on va parler aussi donc, de l'handisport. Et puis, ça me permettra de rebondir après sur le handi escrime, parce que vous faites aussi beaucoup pour cette activité-là. On avait croisé Vincent Nadal, qu'on avait interviewé d'ailleurs pendant les championnats de France. Et vous allez nous en parler. La petite musique. Ensuite, on va avoir un médaillé paralympique d'or, donc à notre antenne, et ensuite on poursuivra la suite de l'émission.
Nothing to discuss, oh, cause I get winning by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl insult, oh. I'm a mind as you the talk, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy and I know that kepo like the Baba Frayo. Soboma, I dey try to buy moto, one Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django Lover. Feelings been dey swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lekki Bona. Now some money remain, could have been all over. My feelings still dey swing like Django Lover. Feelings still dey swing like Timbani catch you, at you. I'm a white dog if any suit. Why you say I did nothing for you? When if I do anything you want me to do. If I do anything you want me to do, maybe another time, maybe another life, you will be my wife and we'll get it right. Young cast, last, now everybody go to breakfast. Have to say bye bye yo, to the love of my life.
Voilà, alors comme promis, bien, on vous gâte sur mon Paris FM. Hein. On va avoir un champion paralympique ce soir, Karl Tabouret. Karl, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Karl Tabouret.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Karl.
Ouais, ça va bien? Merci en tout bonsoir, cas d'être au micro de mon Paris FM. Alors, première question simple, est-ce que votre vie a changé depuis votre médaille?
Ah oui, effectivement, ça a bien changé au niveau, déjà, au niveau du public. Maintenant, dès qu'on se balade un peu... On a des gens qui nous demandent des fois un peu des autographes, des photos.
Ah bah c'est bien.
Ça
c'est
change
bien.
Un peu la donne.
Oui, c'est bien.
Alors, Karl, bonjour. Moi, c'est Vanessa. C'est moi qui vous avais contacté, justement. Je me demandais, vous qui êtes né à Albertville, comment vous débutez le sport et qu'est-ce qui, finalement, vous pousse à choisir le paraski nordique? On va revenir un peu sur vos débuts pour que vous fassiez connaissance avec nos auditeurs.
Bah, Albertville, ça fait maintenant quelques années. Avant, j'étais pas dans le club d'Albertville Handisport.
D'accord.
J'étais le club, ça s'appelait les Jeunes Chamois, c'était à Chambéry.
Ok.
J'ai attaqué là-bas il y a quand même pas mal d'années.
D'accord.
Et ça fait maintenant, du coup, à peu près plus de 5 ans maintenant que je suis à Albertville en e-sport, au niveau du club, du coup, en Andy.
Alors, on va... Je vous en prie, excusez-moi.
Et après, ça fait 12 ans que je suis au club des sports des saisies.
D'accord. Et on va revenir sur les jeux, Karl. Comment vous êtes-vous préparé pour ces jeux, physiquement, mentalement? Et j'ai envie de vous aussi vous poser la question, comment cette préparation olympique s'est inscrite dans votre saison qui a été bonne, hein, puisque vous montez sur les différentes étapes de la Coupe du Monde, vous montez sur les podiums. Comment vous êtes-vous préparé pour ces premiers jeux, vos premiers jeux?
Du coup, au niveau ressenti, j'ai dû, travailler beaucoup mon mental parce que je savais que ça allait être quand même compliqué. Je me suis dit, si on travaille pas bien son mental, des fois, on peut être beaucoup déçu. Et du coup, si on est déçu, ça peut nous pénaliser sur justement les courses du futur. Du coup, j'ai beaucoup, réfléchi, travaillé là-dessus, de me dire que même si... les premières courses que j'ai fait en biathlon, je savais que c'était des courses où je pouvais aller chercher des médailles. Et ça se pouvait que je faisais pas forcément de médailles. Et justement, c'est ce qui est arrivé malheureusement. J'ai fait zéro médaille en biathlon. Du coup, c'est vraiment la chose où on va dire où j'ai le plus travaillé, c'est mentalement.
Et les jeux que vous avez vécus, c'était ce que vous imaginiez quand vous êtes au départ?
Ce que j'imagine au départ, surtout, ouais. C'est que... J'étais très stressé ma première course. J'avais vraiment même mal au ventre tellement que j'étais stressé parce que l'enjeu, il est tellement élevé à côté d'une Coupe du Monde ou d'un championnat du monde.
C'est certain.
Et en fin de compte, ça s'est bien passé, mais et du coup, ça m'a permis les courses d'après de me sentir plus léger parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est une course comme les autres, en fin de compte.
Oui, en soi, oui, mais bon, c'est quand même un contexte particulier. Mais bon, c'est ça le problème, c'est qu'il faut faire le vide après. Il faut éviter de penser qu'on est au jeu, quoi. C'est ça la difficulté.
Voilà, en fait, c'est ça, c'est d'éviter de penser qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, en fait. C'est ça qu'il faut essayer de oublier, parce que sinon, on y pense trop. Et du coup, en fait, ça nous fait travailler trop le cerveau, et c'est de l'énergie, en fait, qui est, on va dire, balancée par les fenêtres.
Et justement, ces Jeux paralympiques, ils ont été pleins de rebondissements. Comment vous les avez vécus? Un petit peu, j'ai envie de vous dire, un petit peu au jour le jour, vous nous en avez parlé. Mais comment vous avez vécu ces Jeux au jour le jour?
Franchement, les Jeux, super bien. Chaque jour, beaucoup d'émotions. Après, des émotions forcément différentes. Parce que des fois, on avait des courses qu'on aurait bien aimé, que j'aurais bien aimé faire mieux. Et des fois, j'étais quand même satisfait, même s'il n'y avait pas de médaille. Après, comme par exemple le chaos classique, j'ai été quand même très déçu, mais en même temps content, parce que moi, j'ai pas pu aller du coup en finale. À la demi, j'ai été éjecté de la finale, mais du coup, très content, parce que malgré tout, j'ai mon collègue Benjamin Davier, du coup, qui a réussi à faire une médaille. Du coup, ça nous a tous, en fin de compte, mis beaucoup de joie et une bonne ambiance dans l'équipe, et ce qui m'a permis aussi, du coup, le lendemain, d'aller chercher cette médaille d'or.
Et bien justement, qu'est-ce qu'il vous a dit, Benjamin, la veille de votre sacre olympique? C'était ça que je voulais un petit peu savoir.
Oui, on en a beaucoup parlé, et c'est ce qui a fait, du coup, que il me disait beaucoup qu'effectivement, j'en étais capable, que je pouvais, et du coup, dans la tête, je me suis beaucoup dit, allez, il faut croire en toi, il faut croire à ce que les autres te disent. Et ça réussit à bien, du coup, me détendre et en même temps débloquer tout ce qu'il fallait.
Parce que je crois que vous avez tenu sa médaille dans les mains, justement, et que vous lui avez dit, moi aussi, j'en veux une.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et parce que la veille de votre sacre olympique, justement sur le 10 km classique, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que vous terminez quatrième de la demi-finale de l'épreuve de sprint libre. Et puis, moi, justement, je me pose la question, comment vous arrivez à trouver les ressources pour aller chercher cette médaille, pour vous transcender sur cette épreuve du 10 km classique où vous devenez champion paralympique?
Je me suis
j'ai fait quand même en fait ce que je fais le plus souvent. Je me dis de toute façon il faut tout donner, au moins on est sûr qu'on ne regrette pas sa course. Mmh. Et en fin de compte après je mets des choses en place, on va dire un mode de course spécifique que beaucoup d'athlètes le font on va dire à l'inverse de ce que moi je fais. Souvent les athlètes ont une tendance à partir fort,
oui,
et finir on va dire ils commencent à être un petit peu cramés sur, oui, les fins de course. Et moi justement j'ai une tendance à partir, après c'est un peu spécifique les mots que je vais dire, mais c'est seuil moins, seuil plus, et allure vraiment KO à fond.
Ouais.
Et du coup je commence avec une allure justement modérée pour chauffer la machine entre guillemets.
D'accord.
Mais sans s'endormir. Et du coup de en avançant dans la course, kilomètre après kilomètre, d'aller de plus en plus vite et plus fort, avec plus de puissance, et du coup de tenir les athlètes, et justement même à la fin de prendre du temps sur eux en fait.
Mmh. Alors vous aviez dit que votre vie avait changé. Est-ce que vous avez eu des petits messages, des petits SMS de l'équipe de France des valides, c'est-à-dire Lou Jean Monod, Éric Perrault, entre autres?
Non, soit,
pas du tout. Pas trop, ah bon?
Non, hein, soit. Bah après, c'est des personnes que je coûte. Bah, que j'en sois, je parle pas trop. Oui, personnellement. Ouais, enfin,
vous pratiquez après, un même sport quand même. Hein, vous pratiquez un même sport quand même. Hein.
Ouais, après, je suis plus. Bah, après, on est dans le même club. C'est avec Julia Simon.
Ah oui, ah oui. Bah, on saisit là-bas.
Voilà, après, on s'entraîne même des fois quand on est à la salle. On est dans la même salle de muscu. Du coup, on a. C'est avec effectivement avec Julia où on va dire j'ai plus beaucoup plus d'infinité et d'amitié.
Bon, maintenant c'est 2030 je suppose pour vous.
Excusez-moi.
C'est 2030 maintenant pour vous.
Oui, c'est ça. Bah là voilà, c'est les jeux sont finis. Maintenant il faut un peu se reposer, mais pas non plus s'endormir, parce que malgré tout 4 ans ça passe quand même bien vite. Et du coup les disciplines vont pas être les mêmes. Ce que j'ai fait là sur le 10 km classique, ça va être un 10 skate, et où c'était un 20 skate, ça va être un 20 classique. Il va falloir retravailler un peu tout sur quelle course il va falloir se fixer de plus d'objectifs, quelle pratique de ski plus classique, plus skate. Il va falloir travailler du coup là forcément plus sur du skate, parce que il y aura plus de skate, le KO il sera en skate, le 10 il sera en skate. Du coup, il va pas falloir trop s'endormir pendant 4 ans. Du coup, là, dans un mois et demi, on rattaque les stages, et il va falloir bien y aller, parce que malgré tout, ça se passe chez nous. Du coup, on va être très attendu sur ces jeux.
Et je voulais revenir un petit peu sur votre relation avec Benjamin Davier. Comment vous la qualifieriez? Parce que vous êtes très proches l'un et l'autre. C'est un peu votre grand frère quelque part.
Bah, je dirais que notre relation, on a une relation très proche. Quand on est en stage, on pourrait dire en fait une relation un peu comme si c'était mon grand frère et je suis petit frère.
Oui, oui. Et comment il vous aide? Oui, tout à fait.
Parce qu'en soi, il me donne quand même beaucoup de conseils de tout, on va dire, toutes ces parties qu'il a appris avec les années, l'expérience qu'il a pris, il me transmet entre guillemets un peu tout ce qu'il a appris. Du coup, j'arrive à en même temps de moi ce que j'apprends et plus que ce que lui me donne, ça me permet du coup de m'améliorer encore plus et d'avancer plus sur mes courses.
Et je crois savoir que le collectif est très important pour vous. Qu'est-ce que ça représente? Et puis, comment se crée l'émulation au quotidien? J'ai aussi envie de vous demander. Vous m'entendez?
Ça a recoupé un petit peu.
Ah, là, d'accord.
Je ne sais pas pourquoi ça.
Non, mais je vous en prie, il n'y a pas de problème. Je me demandais, est-ce que là, vous m'entendez bien? Qu'est-ce que représentait le collectif pour vous? Et comment, justement, se crée un peu cette émulation?
Pour moi, le collectif, on va dire, c'est dans une équipe, c'est vraiment le plus important, parce qu'il faut quand même. Qu'on soit très proche, que ce soit n'importe quel athlète, il ne faut pas qu'il y en ait qui soient un petit peu mis à l'écart. Le but justement de vivre en équipe, c'est de faire une seule et même c'est un peu qu'on soit
une seule équipe, famille, quoi, un seul groupe, quoi, une seule équipe, quoi, c'est ça.
Voilà, c'est un groupe. Et, Et un peu, on va dire, moi, c'est un peu ça en soi. J'ai Benjamin, c'est comme mon frère, mais le reste de l'équipe, on va dire que Vincent Duchesne, mon coach, c'est, on va dire, un peu comme un deuxième père aussi, parce que du coup, on partage tout ensemble et tout. En compétition, c'est lui qui me fait les trois quarts des choses que j'ai besoin. Du coup, c'est vraiment... c'est ça. En plus, on passe autant de temps avec notre famille que l'équipe. Du coup, c'est un peu comme deux familles.
Oui. Alors, justement, Karl, on a un invité en studio qui a beaucoup suivi ces Jeux paralympiques, qui aimerait vous faire un petit coucou et vous féliciter pour votre médaille d'or. C'est...
Oui, un grand bravo. Bonjour Nicolas Pioffret, je suis escrimeur.
Oui.
Mais en tout cas, j'ai bien suivi ces Jeux olympiques et paralympiques. Et franchement, quand on voit tous les efforts, toute cette abnégation pour arriver au plus haut niveau, franchement, bravo, chapeau. C'était super. On a vraiment vibré derrière nos postes, avec un regret, évidemment, de ne pas être derrière vous, présent à toutes les épreuves. Mais c'était super. Un grand bravo.
Merci, c'est gentil.
Nos félicitations aussi d'ailleurs, parce que c'est des beaux premiers jeux. Et justement, avec quel sentiment un peu, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais je me demandais aussi, peut-être un peu plus spécifiquement, avec quel sentiment vous ressortez de ces jeux, peut-être sur le plan du partage avec l'équipe de France, des émotions, de vos performances, voilà.
Là, c'est surtout, on va dire, beaucoup d'émotions et de partage de ce qu'on a partagé avec l'équipe, que normalement, on partage quand même beaucoup de choses, mais là, on a partagé quand même énormément de choses. Quand on rentrait le soir, on parlait de nos courses, de plein de détails un peu de notre course. Mm-hmm. Et on était quand même très proches, même quand on faisait quasiment tout ensemble pendant les Jeux, tout ce qui était séance récup, on faisait vraiment les trois quarts... les trois quarts, même la totalité des choses ensemble. Du coup, c'est vraiment la chose que je retiens, c'est qu'en fin de compte, on arrive vraiment à quelque chose de, comme je disais, une famille, parce qu'on
c'est
a
ça.
L'impression qu'on est tous, entre guillemets. Et en soi, ce que je retiens, c'est que du coup, je suis, au niveau compétition, j'avais peur de rentrer sans médaille, et du coup, j'ai quand même réussi à décrocher une médaille. Et pour les Jeux 2030, je n'aurais pas besoin de paniquer, je serais vraiment en confiance.
Oui.
Et sans stress pour commencer ces courses en 2030.
Juste une dernière petite question, justement, les Alpes 2030, quels vont être les axes de progression, de travail, j'ai envie de vous demander, que vous allez développer avec vos entraîneurs ?
En soi, on n'a pas encore trop eu là le moment d'en parler. Ça va plus se passer dans les semaines qui viennent. Mais
d'accord.
Comme là, on a vu effectivement sur le biathlon, oui. Ça n'a pas très très bien marché. À mon avis, il y a des chances qu'on va privilégier un petit peu plus le fond. De base, moi, je suis fondeur et pas biathlète. Et du coup, pour préparer comme les jeux, malgré tout, comme je disais, il va y avoir un 10 skate, chaos skate, et du coup. Là-dessus, il va falloir vraiment que je sois très présent parce que malgré tout, sur ces jeux, sur le chaos, je me suis fait éliminer.
D'accord.
Et normalement, c'est, on va dire, mon point fort. Et en skate, c'est pas encore mon point fort, mais il va falloir que je me prépare pendant 4 ans. Et du coup, le biathlon, on va dire que je vais me préparer, mais ça va être, on va voir surtout ce que ça va donner au niveau progression ski et après, on improvisera sur le tir.
Eh ben, merci beaucoup, Karl, de nous avoir accordé cette interview, de nous avoir consacré du temps. Et puis, encore une fois, félicitations. Et puis, évidemment, bonne chance pour la suite. Voilà.
Énorme merci. Merci. Karl. Et puis, écoutez, tous nos voeux pour 2030. Hein, puis, vous nous rappelez entre-temps. D'accord ?
Ok. Mais pas de souci. Voilà.
Merci
pas
beaucoup.
De problème. Merci beaucoup, Karl. Voilà. Alors, Vanessa, on va quand même dire que ces Jeux paralympiques, ils ont été un petit peu moins bons qu'on l'espérait pour la délégation française.
Alors, 12 médailles, ce qui, en effet, comme l'avait souligné Marie-Amélie Le Fur, c'était quand même un petit peu une déception. Maintenant, on a quand même fait des bonnes choses. Il y a eu Cécile Hernandez.
Alors, 12 médailles, 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Voilà.
Exactement.
6e nation au tableau des médailles.
6e nation au tableau des médailles. Moi, je voulais un petit peu vous parler un petit peu athlète par athlète. Donc,
oui,
Arthur Bauchet, 3 médailles dont 2 titres. Donc, l'or sur le combiné alpin, le super combiné alpin, l'or en slalom géant debout. Et il avait ouvert avant ça le compteur des médailles avec Aurélie Richard, avec justement l'argent en descente debout. Aurélie Richard, elle aussi, a fait des très bons jeux. Hein. Premier
médailles.
Jeu, 4 médailles.
Ouais,
justement, l'argent, le même jour, elle et Arthur Baucher ouvrent le compteur des médailles avec de l'argent sur la descente debout. Et puis, Aurélie Richard a été aussi chercher des médailles en Super G, sur le combiné, le bronze sur le géant. 4 médailles en 5 courses. Hein. Donc, pour elle, c'était quand même satisfaisant, même si, bien sûr, à la fin des courses, il y avait un petit peu de déception parce qu'elle voulait l'or. Mais elle a été jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout d'elle-même. Donc, pour elle, on peut le dire, hein, c'est une satisfaction, ces premiers jeux. Et puis, donc, j'en venais à Cécile Hernandez.
Eh oui, la vétérante, superbe, 41 ans.
Superbe jeu.
À 51 ans.
Exactement.
51
ans.
51
ans. Allez, maman, 51 ans.
Je veux la rajeunir.
51 ans, Cécile Hernandez. Elle glane l'or en snowboard cross. Et elle a partagé justement ça avec sa fille, Victoire Éléonore. Ouais. Elle lui avait fait la promesse, hein, justement, d'être tout donner. Et puis aussi, Anthony Chalençon, le bronze sur 20 km. Benjamin Davier qui a eu le bronze donc, sur le sprint classique debout. On oublie évidemment Karl Tabouret que nous avons eu à l'antenne.
Ouais,
et puis, voilà, Jules Siegers, le bronze en paraski alpin. Je crois que je n'oublie personne.
Non,
je n'oublie
juste
personne.
Un dernier mot. 600 000 téléspectateurs en moyenne. On ne peut pas dire quand même que ces Jeux aient été énormément suivis, même s'il y a des progrès par rapport à Pékin. On peut le déplorer quand même.
Il y a des progrès, mais après, moi, j'ai eu le sentiment que peut-être sur les diffusions...
Ouais.
Alors, je vais quand même apporter une petite touche. C'est que sur la diffusion, je n'ai pas eu le sentiment que c'était autant diffusé à l'antenne, en direct. C'était plutôt sur France... 4. Enfin, en tous les cas, France 2, France 3, France 4. Mais en effet, peut-être que ça a été aussi un peu moins suivi. Il ne faut pas oublier non plus, Philippe, qu'il y a les élections municipales, il y a le contexte de la guerre, parce que ça, c'est quand même très important de le souligner. Il y a la guerre au Moyen-Orient en ce moment, il y a les élections municipales qui ont quand même largement pris la place sur ces Jeux paralympiques. Et c'est ce qui peut-être explique aussi que ça a été moins suivi. Parce que vous vous rappelez, les Jeux de Paris 2024, même si c'est différent, il y avait eu encore aussi quelque chose. Donc c'est vrai qu'ils n'ont quand même pas eu trop de chance et qu'ils auraient... L'actualité a fait qu'ils ont été un petit peu quand même relégués un peu derrière. Et c'est dommage. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu justement interviewer Karl Tabouret et les mettre en lumière. On s'en était fait la promesse.
De... Ouais, ouais, ouais.
Et c'est très important. Et il faut continuer à en parler tout au long de l'année parce que parler du parasport, c'est pas que juste au moment des Jeux Olympiques ou d'un championnat du monde. C'est tout au long de l'année. Et c'est pour ça. Parce qu'il faut les suivre, ces athlètes. Parce que c'est pas... tous les 4 ans et puis après dans ces 4 années on les abandonne, non, c'est les suivre au quotidien, voir leur progrès, comment ils se sentent,
les suivre en tant qu'athlète,
en tant qu'athlète
à part entière.
Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas d'athlète, enfin il y a athlète et parathlète pour les dénominations, mais ils méritent exactement la même lumière que les athlètes valides, entre guillemets.
Voilà. Alors c'est un message auquel vous adhérez, puisque on en parlait, l'escrime a fait beaucoup, hein. Vous faites beaucoup pour le para-escrime.
Oui, l'escrime est très très présent en paralympique. D'ailleurs, la Fédération française d'escrime vient d'insérer dans son sein la partie handisport de l'escrime qui ne lui était pas rattachée. Donc ça c'est important. Donc c'est une vraie volonté de la Fédération française d'escrime maintenant de développer davantage le paralympique. Nous, dans notre club, on a des fauteuils handisport pour eux. Et c'est très intéressant parce que, comme ils sont en nombre, ils sont moindres que l'escrime, j'irais, valide. On s'efforce, en fait, lorsqu'on a des escrimeurs sur un fauteuil, eh bien les valides passent également, vont pratiquer l'escrime sur le fauteuil pour entraîner justement nos escrimeurs.
Vas-y. Et j'avais parlé de Vincent Nadal, on avait vu, il avait sorti justement, on l'avait interviewé. Hein, il est vice-président, je crois, de la Fédération française handisport pour l'escrime. Et il avait donc fabriquer un petit engin qui a été présenté
pour
pouvoir se déplacer facilement.
Oui, ouais. Absolument. Au sein du club, on a formé Luca Platania Parisi qui avait été. Alors, qui a fait longtemps partie de l'équipe de France, qui a été deux fois vice-champion de France au fleuret. Et là, malheureusement, il a rejoint l'équipe d'Italie parce qu'il n'a pas été sélectionné lors des derniers Jeux Olympiques, alors qu'il avait toute sa place. Il a décidé de rejoindre l'Italie. Donc, on a perdu Lucas au club. En tout cas, il a été formé chez nous. Et voilà, on en est très fiers. Et voilà, on essaie de développer cette section. Et en tout cas, on a tout le matériel à la disposition de ce public.
Très bien. Ben Nicolas, comme vous aimez tous les sports, je vous propose d'écouter maintenant le journal des sports avec un coup de gueule qui sera donc inséré, coup de cœur, coup de gueule, de notre ami Stéphane. Donc on commence naturellement
avec
par
le biathlon.
Et
oui, le doublé donc à la Coupe du Monde à Oslo en Norvège. Sur le sprint femme, il y avait la Suédoise Auberg qui s'est imposée devant l'Italienne Vitozzi et l'autre Suédoise Eberg. Et puis le lendemain, hein, la grille a remporté le sprint homme devant Émilien Jacquelin, Éric Perrault. Le voilà le doublé, Philippe. Et puis même vainqueur sur les deux épreuves de poursuite. Enfin, sur la masse start femme, l'Italienne Vitozzi s'impose devant Auberg et Vobornikova. Chez les hommes, le Norvégien Botn remporte l'épreuve reine devant l'Allemand Narwars et Éric Perrault. On passe au ski alpin.
Non, mais attends, ça a inspiré le coup de cœur.
Ah bah voilà,
cœur.
C'était la surprise. C'était la surprise. Vous ne m'aviez pas dit.
Depuis tout à l'heure.
La grande surprise du jour.
Bah oui, non, franchement, impossible de passer à côté. Bah oui. Pourtant, il y avait du choix entre Arthur Fils qui a littéralement étrillé Stefanos Tsitsipas à Miami ou encore le mano à mano qui continue entre le PSG et le Racing Club de Lens en Ligue 1.
Ouais, mais enfin, c'est plus fort quand même. Un globe de cristal quand même.
Oui. Bah, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre le doublé français en avant avec Lou-Jean Monod et Éric Perrault. Donc doublé gros globe de cristal au classement général de la Coupe du Monde. Donc pour Lou-Jean Monod et Éric Perrault, quatrième fois que cette perf arrive. Donc la première fois c'était en URSS en 90-91. Puis il y a eu l'Allemagne en 2006-2007 et la Norvège en 2020-2021. Donc en gros, pour situer un petit peu, pour situer vraiment la mainmise du biathlon français sur le biathlon international. 9 des 10 globes de la saison sont revenus à des biathlètes français. Le seul globe qui y a échappé, c'est sur Yael Agred, avec le globe sur le sprint. Voilà, même du côté des femmes, franchement, c'est complètement dingue, puisque Lou-Jean Monod repart avec le sprint, la poursuite individuelle et générale. Et la seule discipline qui lui échappe, c'est la mass start, et c'est Julia Simon qui récupère le globe de la spécialité. Du côté d'Éric Perrault, c'est pareil, il repart avec le général, la poursuite, l'individuelle et la mass start. Comme je l'ai dit, c'est sur Yael Agred qui repart avec la spécialité du sprint. Donc, au total, la France a été très proche, mais vraiment très proche de faire le grand chelem. Ça s'est joué à 21 points près. Mais tout de même, 65 podiums pour la France devant la Norvège 53, la Suède 37, à un podium du record all-time qui est de 66 podiums effectués la saison dernière.
C'est pour ça que ça valait bien ton coup de cœur. Voilà. Ça, il n'y avait pas photo.
Je suis totalement d'accord.
Il n'y avait pas photo. Ouais. Allez, maintenant, on enfourche.
Le ski alpin. Donc, suite de la Coupe du Monde à Lillehammer, l'Italien Paris remporte la descente homme devant le Suisse Von Almen et l'Autrichien Kretschmar. Nouvelle victoire italienne chez les femmes avec Pirovano devant Johnson et l'Allemande Winkelmann. Sur le Super G femme, c'est Goggia qui s'impose, tandis que chez les hommes, Paris signe le doublé pour l'Italie. Décidément, les Italiens brillent en ski dans toutes les disciplines après les Jeux qui ont été brillants pour l'Italie. Et puis en cyclisme maintenant, Tadej Pogacar remporte pour la première fois l'épreuve, et de quelle façon?
En Italie
après une chute en moins de 5 km de la Cipressa, le Slovène a remonté tout le peloton pour s'imposer. Donc incroyable, et puis il est déjà incroyable, mais une fois de plus,
c'est un classique,
toujours assez fou. Et puis exactement, merci Philippe. On passe à la moto GP maintenant, donc avec le Grand Prix du Brésil ce week-end. Nouvelle victoire de Marco Bezzecchi. Deux victoires en deux courses pour l'Italien en MotoGP. Il termine devant Jorge Martin et Fabio Di Giantonio. Quelques mots d'athlétisme avec les championnats du monde en salle de Torun en Pologne. Compétition rude pour la France qui termine en 24e position sur le tableau des médailles. Une seule médaille de bronze ramenée par Jan Schroub sur le 3000 mètres. Et vous voulez dire quelque chose?
Oui, alors justement, on les avait suivis. La préparation de ces athlètes à Bercy, beaucoup se préparaient pour ces championnats du monde. On avait ramené quelques interviews, on se rappelle, on les a passées dans nos émissions. Malheureusement, ça ne s'est pas trop bien passé pour eux.
Ouais. Voilà. Et puis en rugby maintenant, donc 19e journée de top 14, victoire du Racing 92-52-21 face à Castres. Victoire également du Stade français 46-27. Et puis au classement, le Stade français 5e, le Racing pointe à la 7e place. Maintenant, 32e journée d'Euroleague et défaite de l'AZ. On passe au basket, excusez-moi. On passe au basket. 32e journée d'Euroleague, défaite de l'AZ 89-85 face au Maccabi Tel Aviv. Victoire de Monaco cette fois 96-93 contre Efes. Et puis défaite du Paris Basket contre le Partizan 90-81.
C'est bien dur hein, pour le Paris Basket.
Ça devient difficile parce que je pense, écoutez Philippe, moi c'est mon analyse, c'est qu'ils sont dans une transition là. Ils sont montés en Ligue 1 et puis maintenant je pense qu'ils sont dans une transition et qu'il va falloir gérer cette transition pour sans doute au fur et à mesure progresser. Et puis donc je continue en championnat, 23e journée et défaite du Paris Basket face à Bourg-en-Bresse 95-85. Nanterre s'impose contre le Portel 90-59. Et puis au classement, Nanterre est toujours deuxième devant le Paris Basket. Juste vous rappeler le classement en Euroleague, Monaco est 7e, Paris 17e et l'ASVEL toujours lanterne rouge. On passe au hand maintenant, au handball. Donc après sa victoire 29-26 jeudi dernier, l'équipe de France a cette fois arraché le nul face à l'Espagne 25-25 ce dimanche. Et puis en championnat féminin, 18e journée et victoire du Paris 92-29-26 sur le Havre. Et puis au classement sur les Parisiennes, sont 7e. On referme ce journal avec du volley. 26e et dernière journée de la Marmara Spike League, victoire de Paris 3-0 dans le derby parisien face au Plessis. Au classement, le Plessis termine 7e et le Paris Volley 9e. Le Plessis et Paris Volley se retrouveront en play-in le 25 mars prochain, donc à suivre. Et dans le championnat féminin, victoire de Levallois Paris 3-0 face à Évreux. Levallois qui continue son ascension, son succès, qui fait toujours de très bons matchs. Et puis les Mariennes sont 3e donc au classement après la 26e journée de championnat. Voilà pour ce journal des sports.
Ouais, une nouvelle fois bien chargé. Et puis en parlant de volley, ce sera la finale, ce sera les finales de Coupe de France ce week-end à l'Adidas Arena. On y sera
et vous y serez.
On ramènera quelques interviews avec Théo. Allez, comme on est complet, qu'on aime tous les sports, on marque une deuxième pause musicale et maintenant on parle de ballon rond ensuite avec Stéphane Dezenclos entre autres.
Chaco, Gazo, Blob, et Pierre Kassav. Bitches, Doc, Jacques Kassav. La malaïque. Aïe, aïe, aïe. Gang, 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 gang. Kassav, bitches, elle veut Kassav. Pull up et t'es Kassav. Moi, tous mes gars blancs, ils ont taffé au black. Nous, comme on est black, on a taffé la blanche.
BMO, quelqu'un BMO. BMO, quelqu'un BMO. BMO, vous abonnez-vous. BMO, vous abonnez-vous.
T'as deux choix, le lendemain, t'as perdu les tiens. Qu'est-ce qu'il a, il vient, il nous fait l'ancien, on sait que t'es un chien. Gueule automatique, c'est un Glock 9. Je sors pas et puis je revois la coke white. Au studio, Jack, on fait des top lines. En fin du Gucci, Louis, off-white. Salope de mon jacuzzi, tous les kilos comme mon moving. Douillon, on opère au Uzi. Cette fois, on cherche le flex. Encore une taf, je suis flex. Gain automatique, je fais un demi-tour. Quand je glisse pas, je flex.
J'suis dans le mouvement, t'es dans la penza.
J'suis dans le mouvement, j'suis dans le movie.
Dégaine en Gucci, dégaine en Kenzo.
Dégaine en Gucci, ENZO.
Si t'entends papa, j'suis pas du Benbo.
Si t'entends papa, grippe ta papa.
J'envoie des ballons, j'suis pas dans le football.
J'envoie des ballons, tu passes bien.
Ah ouais, ces négros sont fâchés, son père et mère.
Ils sont fâchés, donc sont fâchés.
Tellement la dalle de manger qu'on s'en pas les mains.
Waouh, thanks.
Prépare le cheval, le plan dans la PMI.
Dans la PMI, fuck you pay me.
J'suis dans un BM, maintenant je me permets.
J'suis dans le BM, j'ai mis le contact.
Y'a les clicos, les caps, c'est un qui tourne dans le secteur. Si tu fais l'acteur, on te fera danser pour le spectacle. Des envies noires, donc Nick ou Mouk, j'veux pas hésiter. J'veux pas hésiter, quitte à finir dans la mer. Et dans les bars, ils vont, non, non, j'peux pas me louper. Les mauvais garçons, bêtises, tu sais qui c'est. Et dans les bars, ils sont, non, non, j'peux pas me louper. Les mauvais garçons, bêtises, tu sais qui c'est. Merci aux clients fidèles, chaque humiliation de billets. Merci.
Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, j'accumule liasses de billets. Merci aux clients fidèles.
Mon Paris FM.
Allez, comme chaque semaine, on va retrouver notre ami Stéphane Desenclos, 433foot.fr. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Stéphane Desenclos. Bon, alors, apparemment, il y a des petits problèmes avec Stéphane Desenclos. On va essayer de le rappeler, tant pis, on nous entendra. Hein. Bon, est-ce que Stéphane m'entend ? Bon, alors c'est pas bien grave, il y avait un coup de cœur, coup de gueule, et toi Stéphane, Sorando,
oui.
Tu as prévu donc un coup de cœur, un coup de cœur pour le biathlon, et un coup de gueule donc pour la canne naturellement.
Eh oui, un coup de gueule donc pour poser une fois de plus le contexte, parce que ça fait quand même deux mois hein, qu'on parle de cette fichue finale entre le Maroc et le Sénégal, hein. Pour rappel, hein, je pose vite fait le contexte, ils se sont affrontés en finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un match serré, très tendu, avec un trophée pour le vainqueur, une grosse portée historique d'ailleurs pour ces deux équipes. Donc nous sommes à la toute fin du match, 91e minute, le Sénégal croit ouvrir le score, mais le but est refusé à cause d'une faute d'Achraf Hakimi au départ de l'action, ce qui provoque une première fois la colère des supporters sénégalais. Trois minutes plus tard, c'est Brahim Diaz, lui qui est accroché dans la surface adverse, une faute qu'il conteste véhément auprès de l'arbitre, qui finit quand même par céder en allant voir la VAR dans la confusion la plus totale. Alors là, les lions de la Teranga, ils crient encore plus fort à l'injustice, le chaos devient complet sur le terrain comme autour, et Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, demande alors à tous ses joueurs de quitter le terrain en signe de contestation. Retenez bien ce geste. Au bout de longues minutes de désordre général, les joueurs sénégalais reviennent sur le terrain, acceptent la décision du pénalty accordé pour le Maroc. Un pénalty finalement manqué à cause d'une Panenka mal exécutée. Les deux équipes partent pour des prolongations et au bout de l'enfer, c'est Pape Gueye à la 94e minute qui inscrit le but de la victoire. Score final 1-0, le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Oui mais non. Puisque deux mois plus tard, donc, la Fédération Royale Marocaine de Football conteste la victoire finale à la commission d'appel de la CAF en invoquant les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Je cite « Toute équipe qui quitte le terrain pour une quelconque raison est immédiatement déclarée perdante 3-0 sur tapis vert. » En clair, Pape Thiaw n'aurait pas dû demander à ses joueurs de quitter le terrain car en l'état, le match n'aurait jamais dû se poursuivre. Et surtout, ce n'est potentiellement pas terminé pour le Sénégal dans cette affaire, puisque selon l'article 59 de ce même règlement, toute fédération qui déclare forfait pendant un match officiel en pleine compétition est passible d'une amende de 20 000 dollars, mais surtout ne sera pas autorisée à participer à l'édition suivante. En clair, le Sénégal perd officiellement sa deuxième étoile et pourrait être exclu de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La victoire du Sénégal sur le terrain est donc annulée, le Maroc étant désormais champion d'Afrique deux mois plus tard par les tribunaux. C'est une décision légitime au vu du règlement, mais jugé catastrophique pour l'image du football africain, moi y compris.
Je suis entièrement d'accord avec toi. La CAN s'est complètement décrédibilisée et le football africain à travers donc, cette décision. Alors tu vas faire le point foot parce que notre ami Stéphane a apparemment un petit problème de téléphone, c'est pas bien grave. La CAN, ça vous inspire à commenter ? Vous aimez le foot ?
Ah, moi j'adore le foot, ouais, par contre très très déçu de cette finale en effet.
Ouais, non mais bon voilà, après il y a un arbitre qui doit siffler, s'il siffle la reprise du match ça doit aller au bout, après voilà, il y a d'autres exemples dans ce cas quoi, c'est dommage ensuite. Enfin,
c'est surtout que dans ces conditions, avec ce qui s'est passé, l'arbitre n'aurait jamais dû reprendre le coup de sifflet.
C'était
là,
à lui d'arrêter le match complètement.
Match, et là pour le coup avec cette affaire là ça va être porté au TAS, donc au tribunal arbitral du sport, et on est loin d'être tiré d'affaire parce que mine de rien, les deux sélections ont de solides arguments à faire valoir pour que la décision puisse pencher en faveur de l'un ou de l'une ou de l'autre fédération.
Bon Stéphane, on va revenir sur les huitièmes de finale, donc retour de cette Ligue des Champions. Oui. Bon, il n'y a pas de suspense, on l'avait dit lorsqu'on avait été en direct sur le match aller, hein, Paris s'était imposé 5-2 face à Chelsea. L'affaire était réglée pour le match retour en un quart d'heure, 3-0 à l'arrivée, deux buts du Paris Saint-Germain dans le premier quart d'heure. Voilà, ça s'est arrêté, il n'y a pas eu photo, victoire tout à fait logique et méritée du PSG qui a joué vraiment en grand maître.
Oui, alors ce qu'il faut quand même noter hein, dans ce match retour, au-delà du score et du fait que ça a été plié extrêmement rapidement dans le match, c'est la mainmise que le Paris Saint-Germain a fait preuve pendant 90 minutes sur l'intégralité du match. On n'a pas vu Chelsea
pas du tout.
À Stamford Bridge. Ouais. Vraiment, les Parisiens ont retrouvé en fait, ce qui faisait leur force la saison dernière en Ligue des Champions, c'est-à-dire un pressing collectif, extrêmement mordant et des velléités offensives qui ont fait que chaque attaque pouvait mener à un but. Et en face, Chelsea a été beaucoup trop timide, submergé par les vagues parisiennes et submergé par, par l'émotion de cet événement. Parce que quand même, 3-0 à la maison, c'est une sévère claque. Hein.
Oui. Alors, pour les autres résultats, on va rappeler quand même la victoire de Liverpool.
Ah, pardon. Oui. Je dis 3-0. Non, on a oublié. 4-0. Oui, on a oublié. Ça fait donc 4-0.
De quoi ?
La victoire du PSG, c'est 3-0 ou 4-0 ?
C'est 3-0.
3-0.
Ouais, 3-0, ouais. Mais le
4-0. Faut pas me mettre en erreur.
Non, non, le 4-0, c'était Liverpool devant Galatasaray. C'était ce que je te disais.
Voilà,
après
exactement.
Une victoire donc, au match aller de Galatasaray 1-0. Donc Liverpool s'était imposé 4-0. D'ailleurs, le PSG et Liverpool vont se retrouver en quart de finale. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc voilà. Le Bayern de Munich, bon, il n'y avait pas photo. Ils se sont imposés 4-1 devant l'Atalanta. Ils ont gagné 6-1 le match aller. Victoire également très nette de Barcelone, 7-2 devant Newcastle. Il y avait eu 1-1, donc à l'aller. Tottenham, Atlético de Madrid. Bah, Tottenham, malgré sa victoire 3-2 contre l'Atlético, ça n'a pas été suffisant, hein, puisqu'on se rappelle que l'Atlético s'était imposé 5-2 au match aller. Arsenal et Leverkusen, bon, il y avait eu 1-1 au match aller. Victoire d'Arsenal 2-0, donc voilà, logique respectée sur ce match. Real Madrid contre Manchester City. Alors, le Real s'était imposé 3-0 au match aller. Ils sont allés gagner à Manchester City 2-1. Et puis, ça, par contre, c'est la grosse remontada. Le Sporting du Portugal, qui après sa défaite contre Bodoglin 3-0, a fait l'exploit d'aller gagner 5-0 après prolongation.
Oui, voilà. Oui. Et en plus, avec la manière, puisqu'ils ont été remontés progressivement leur retard, 1-0, ouais. 2-0, puis 3-0, avec ce fameux penalty de Luis Suarez qui fait chavirer hein, le stade à la 79e minute. Derrière, ça part en prolongation et on sent que les Norvégiens sont cuits physiquement et ils en profitent pour planter le quatrième puis le cinquième but. Franchement, c'est le très gros résultat. Au-delà des cartons des autres équipes, c'est vraiment le très gros résultat sportif.
Et on a vu qu'il y a beaucoup de scores qui ont été acquis dès le match aller et qui ont été confirmés. C'est très souvent ça,
c'est contrairement
à ce qu'on pense. Alors, en dehors du Paris Saint-Germain, Liverpool, les autres quarts de finale, ce sera un chatoyant Real Madrid Bayern de Munich, ça donne toujours des matchs complètement fous. On aura un Barcelone Atlético de Madrid, ça sera un beau match entre Espagnols, et puis un inattendu Sporting du Portugal contre Arsenal. Voilà.
Ouais.
Alors par contre, jeudi noir hein, pour les clubs français en Ligue Europa, puisque Lyon, et ça c'est une déception, hein, vrai, après son nul contre Vigo 1-1, Lyon a été battu à domicile 2-0 par le Celta, et dans le même temps, bon, ça on s'y attendait un petit peu plus, hein, Lille battu 1-0 à domicile, et eh bien là a été aussi par Aston Villa 2-0. Donc, il n'y a plus de club français déjà en Ligue Europa après les huitièmes. Et pourtant, Lyon était sorti premier de la phase de poule.
Oui, et puis il y en a beaucoup qui disent que c'est une déception de ne pas voir l'Olympique Lyonnais viser au moins les demi-finales au vu de son tableau. Et surtout, de la manière dont elle a géré la phase régulière.
Puis s'arrêter en huitième quand même.
Ouais, mais quand même, le Celta Vigo, ça reste quand même une équipe qui est toujours dangereuse. Il y a aussi ce sentiment de se dire, bon, bah, on est l'Olympique Lyonnais, ou alors on est un club français avec un palmarès, peu importe le nom. Hein. Donc, forcément, l'équipe qui est en face aura un effectif moins qualitatif, ça devrait le faire, ça devrait passer. Bah, en fait, non, toutes les équipes sont extrêmement difficiles à jouer. Et le Celta Vigo a quand même de sérieux arguments. Hein. Iago Aspas, pour ne citer que lui, 38 ans, toujours opérationnel à la pointe de cette équipe du Celta. Donc voilà, c'est de là à dire que c'est une déception que Lyon sorte aussitôt de la compétition. Non, il faut
Il faut
remettre.
On
pouvait s'attendre à un peu mieux, mais le Celta Vigo, pour moi, ça restait au-delà de ça un mauvais tirage, un tirage très piège, un tirage traquenard pour l'Olympique Lyonnais, et ça n'a pas loupé.
Nicolas, c'est Coupe d'Europe.
Ah bah les Coupes d'Europe, elles sont passionnantes.
Ouais.
Voir le PSG évoluer à ce niveau, c'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'on les a retrouvées.
Oui. Sur le match retour. Hein. Ouais, parce que l'aller, on l'a commenté, ils ont gagné 5-2, bon, mais ça a été un petit peu plus compliqué.
C'est un résultat trompeur, on va dire.
Mais bon, voilà, c'est le foot. Alors, Paris Saint-Germain est en quart de finale, et il y aura quand même un autre club qui sera en quart de finale, c'est Strasbourg, puisqu'en Conference League, Strasbourg donc, rencontrera Mayence au tour suivant, après avoir donc quand même frôlé un petit peu quand même la correctionnelle. Hein. Ils avaient gagné à Rijeka 1-0, ils ont fait 1-1 chez eux, mais ça a bien failli aller jouer les prolongations. Hein.
Oui, puisque Strasbourg, pour beaucoup, ont mis cette équipe. Il y a beaucoup de monde qui a mis l'équipe de Strasbourg parmi les favoris à la, et les oui c'est ça, les favoris à la victoire finale, puisque bon bah il y a énormément d'équipes qui sont sorties, de grosses équipes entre guillemets dans cette compétition qui sont sorties, mais et avec l'effectif de Strasbourg, voilà, on va dire mi Strasbourg, mi Chelsea, grâce à Blouko, un effectif de qualité mine de rien, ça aurait pu aller au bout. Pour beaucoup de bookmakers, on aurait dit ouais, faut que Strasbourg aille au bout, c'est le moment, c'est maintenant. Mais mine de rien, c'est pas passé loin contre Rijeka, et face à Mayence, ce sera un peu aussi compliqué.
Hein. Ouais. Voilà, donc les rendez-vous, c'est pris. Je crois que ça sera à la mi-avril qu'on aura les deux semaines de Coupe d'Europe, les quarts de finale. Allez, la Ligue 1, la 27e journée, donc je vais vous rappeler les résultats. Lens a cartonné devant Angers 5-1, victoire de Toulouse devant Lorient 1-0, d'Auxerre devant Brest 3-0, nette victoire du Paris Saint-Germain à Nice 4-0, belle victoire aussi importante de Monaco à Lyon 2-1, décidément c'était pas la semaine,
pas la semaine des Olympiques.
Lyonnais, ouais. Lille qui va gagner à Marseille 2-1. Ouais. Ouais. Là aussi, ça devient à nouveau compliqué pour les Marseillais. Match nul entre Rennes et Metz 0-0. Victoire à nouveau du Paris FC. Ça va beaucoup mieux depuis que Comboiré est là. Victoire donc 3-2 contre Laves. Et puis Strasbourg qui va gagner à Nantes 3-2. Ce qui fait qu'en tête du championnat, donc toujours le PSG, malgré son match en retard, avec 60 points. Devant Lens, 2e 59. Marseille, 3e 49. 4e Lyon et Lille 47. 6e Monaco 46. Et 7e Rennes 44. Donc on voit que c'est quand même assez serré hein, pour les places européennes. Après le PSG, puis Lens, naturellement, qu'on quand même une marge. Et puis en bas de tableau, donc 14e Nice et Le Havre avec 27 points. 16e Auxerre, 22 points. 17e Nantes, 17 points. Et 18e Metz, 14 points. Ça t'inspire un commentaire, cette journée de championnat?
Attention, alors déjà, je suis content pour le PFC parce que vu ce que met Antoine Comboiré en place, à savoir, même si on n'a pas les moyens d'aller chercher 3, 4, 5, 6 buts par match, le but, c'est de consolider la défense un maximum et d'aller chercher le plus de points possible, que ce soit match nul ou victoire. La recette est en train de prendre parce que, bon, bah, c'est l'idée, c'était de le prendre en tant que pompier de service. Ça fonctionne parce qu'ils sont désormais 13e, alors qu'ils flirtaient il n'y a pas si longtemps avec la position de barragiste. Je trouve que l'embellie est salutaire et elle arrive au bon moment pour le PFC afin de poursuivre son opération maintien. Et puis un autre point que je voulais mettre en avant aussi, c'est le calendrier de l'OGC Nice. Il est terrifiant jusqu'à la fin du championnat. Ils vont se retrouver à jouer le top 5 là jusqu'à la fin de la fin du calendrier, avec un match qui aura valeur et qui sera synonyme de match de finale du maintien contre Auxerre. Donc honnêtement, j'ai très très peur pour l'OGC Nice.
Ils ont une petite marge quand même. Hein.
Même avec cette petite marge et surtout au vu du carton qu'ils ont pris face au Paris Saint-Germain à domicile, moi j'ai très très peur pour Nice.
5 points d'avance,
c'est une avance qui peut vite fondre parce que derrière, la JOCR à l'écro, ils ont les moyens d'aller encore plus haut que la place de barragiste, je le pense et je le dis depuis le début du championnat. Attention, terrain glissant pour le GC Nice en fin de saison.
Ouais, vous avez un club favori, Nicolas, non?
Le PSG, bien sûr.
Non, non, mais parisien, bien sûr, parisien,
sans problème. Mais moi, je note l'incroyable parcours du Racing Club de Lens.
Oui, il anime
le championnat. Heureusement qu'ils sont là cette année. Ils donnent un peu de suspense.
Oui,
extraordinaire, superbe.
Allez, on passe à la Ligue 2, 28e journée, donc avec un premier match qui a été un match à but, victoire du Mans à Amiens 4-3, victoire aussi du Red Star à Clermont 1-0, Rodez, Bastia, Machoul 1 partout, Machoul aussi entre Pau et Montpellier 0-0, ainsi qu'entre Boulogne-sur-Mer et Nancy, Laval qui bat Grenoble 3-2, 5-1 pour 3 devant Dunkerque, et puis victoire de Reims et à Guingamp 2-0, et de Saint-Etienne sur le même score face à Annecy, donc c'est 3 qui est quand même en tête avec 57 points, deuxième Saint-Etienne 53, troisième Le Mans 50, quatrième le Red Star 47, cinquième Reims 46, et en bas de tableau 16e Amiens et Laval avec 23 points et 18e donc Bastia 20 points. Là aussi c'est compact hein, la Ligue 2, hein. c'est serré quand même, hein. C'est pas joué. Hein.
Plus que jamais, la Ligue 2 c'est un championnat qui est extrêmement serré, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner 3 ou 4 victoires de suite et se retrouver à jouer la montée, le top 6. Et dans l'autre sens, 3 ou 4 défaites et on se retrouve à jouer le maintien. Ça va très, 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 très vite. Je suis content de voir le Red Star tenir la cadence, une cadence effrénée hein, quand même, hein, qui est tenue par Troyes, par Saint-Etienne.
Ah, ils peuvent jouer les barrages,
Bon, c'est vrai que c'est un petit fantasme de francilien quand même, mais voir 3 clubs, PSG, PFC, Red Star en Ligue 1, ce serait quand même exceptionnel.
Oui, on s'intéresse beaucoup hein, aux clubs français.
On en avait parlé, il y a quelques émissions de ces, justement, de ce. de ce trio qui pourrait arriver dans la Ligue.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que...
Le classement, trois clubs parisiens, parce qu'on avait fait, il me semble, il y a quelques émissions, oui. un récapitulatif sur les sports, sur les clubs parisiens de foot, oui. vous vous rappelez ?
Oui, tout voilà. à fait, tout à fait. Voilà. Sachant qu'on prenait, on peut carrément prendre l'exemple de l'Angleterre, la Première Ligue, à Londres, il y a énormément de clubs.
Voilà,
qui
c'est ce qu'on avait
ville.
Fait. On avait comparé, là, notamment, oui, on avait comparé les clubs anglais, les clubs espagnols. Oui. Au club aussi. Parisien.
Tout à fait.
Voilà, c'était ça. Ouais. Oui. C'est pour ça que et ça me rappelait.
On a vu le président Ferracci d'ailleurs au téléphone.
Au téléphone, exactement, oui.
Paris FC à l'époque. Allez, le national, justement, 26e journée. Alors, Versailles-Fleury, match nul, un partout. Hein, c'était le derby. Il y avait eu un 0-0. On y était au match aller. Et à nouveau, match nul pour ce match retour. Et puis, le Paris 13 Atlético, qui, justement, à domicile, est accroché par Rouen 0-0. Ça fait donc Dijon qui est en tête à 49 points devant Sochaux qui va remonter probablement deuxième, 48 points, troisième Rouen, 46 points. Le Puy et Versailles sont à la cinquième place, 41 points. Ça va être un petit peu compliqué quand même pour
ça
Versailles. Ouais. Septième Fleury, 38 points. Et treizième, le Paris 13 Atlético, 27 points. Puis en bas de tableau, attention, 15e Châteauroux, 20 points. 16e QRM, donc Quevilly, Rouen, Métropole avec 19 points. Et 17e Saint-Brieuc, 18 points. Voilà.
Ouais, ça va être compliqué pour la montée, ouais. mais j'ai quand même un petit mot pour le FC Sochaux, puisque
c'est un
club mythique du championnat de France des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Le fait de le voir au national, ça fait toujours mal au cœur, comme Bordeaux en 4ème division aussi, c'est tout pareil.
Ils vont peut-être remonter.
Voilà, ils sont très bien partis, les Bordelais. Et Sochaux, revoir Sochaux qui performe bien après le contexte de ces dernières années qui était chaotique au possible, moi ça me fait plaisir. Et puis à noter, hein, puisque on adore parler d'histoire quand on parle de sport, eh bien Sochaux a retrouvé son sponsor principal, en l'occurrence Peugeot, qui est de retour. Ils étaient partis en 2015, ils sont revenus en 2026. Moi honnêtement, ça me fait rire, jaune et bleu, sans faire de jeu de mots, mais voilà, je trouve ça bien que Peugeot redevienne sponsor maillot principal, puisque c'était sous Peugeot que le FC Sochaux avait connu notamment ses plus belles lettres de noblesse, avec deux championnats de France en 35 et 37. Et deux Coupes de France.
Ouais, et puis des Coupes d'Europe. Hein,
35 et 38 pour le championnat, ouais. 37 pour la Coupe de France, et 2007.
C'est bien.
Voilà.
Allez, on finit avec les féminines, Division 1, 18e journée. Paris FC qui va s'imposer à Saint-Etienne 3-0, Lyon qui va gagner à Fleury-Mérogis 2-0, et puis le Paris Saint-Germain à Montpellier 3-2. Donc Lyon en tête avec 52 points, devant Nantes et le Paris FC 36 points. 4e PSG, 35 points, qui est déjà revenu dans le carré d'as pour aller jouer donc les playoffs malgré ses 9 points de retirés dans le championnat, et qui décroche justement Fleury-Mérogis qui est 5e avec 29 points. Voilà donc pour l'actu foot. Et puis on va quand même dire, Stéphane, qu'on rentre dans une semaine internationale avec deux matchs en Amérique.
Tout à fait. Ouais. Avec un premier match contre le Brésil ce jeudi.
Et après en Colombie. Voilà. Dernier préparatif avant la dernière ligne droite du mondial. Hein.
C'est ça. Ah oui, et petite info justement, puisqu'on a eu. Normalement, il aurait dû avoir William Saliba dans le groupe. Mmh. Il a déclaré forfait sur blessure. C'est Maxence Lacroix qui va le remplacer. Oui, tout à fait. Défenseur central de Crystal Palace qui va le remplacer et qui va honorer. Donc qui pourrait honorer sa première sélection sur le terrain avec l'équipe de France. En revanche, Manu Koné, qui lui est titulaire indiscutable au milieu de terrain, il a été déclaré forfait et non remplacé. Donc à voir pour la réorganisation tactique de l'équipe de France sous Dédé pour ces deux prochains matchs.
Voilà pour ce traditionnel et hebdomadaire point foot. Alors vous voyez, on aime tous les sports. Hein. Donc on va repartir avec vous pour finir donc sur le chapitre de l'escrime. Quelles sont vos prochaines grandes compétitions ?
Là, les championnats de France élite par équipe, donc, hommes et femmes.
Oui.
Et puis les championnats de France M20 où on a de très bonnes chances pour je l'espère en National 1. Les championnats de France vétérans, bien sûr, puisque je fais partie de cette équipe, et puis voilà, les plus jeunes également, les M15, les M17, mais voilà, beaucoup de championnats. Tous les championnats de France se tiennent entre la mi-mai et la fin juin.
D'accord.
Donc, beaucoup d'activités pour le club.
Ouais. Et donc, vous travaillez aussi avec les écoles, des fois, non ?
Oui, bien sûr. On travaille avec les écoles du quartier que l'on invite au club. On a des suivis depuis des années avec les écoles du 9e arrondissement. Et voilà, on initie les jeunes à l'escrime, et puis certains rejoignent ensuite nos clubs. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
Et entre clubs parisiens d'escrime, vous avez des actions communes, des fois ?
Oui, oui, on en a de plus en plus. Il peut y avoir des partenariats ou des coups de pouce. Par exemple, nous, on a eu des travaux dans notre salle jusqu'à la mi-septembre. Et il y a deux clubs qui nous ont accueillis pendant 15 jours. Et puis, voilà, tout au long de l'année, on a des échanges avec eux pour les inviter, notamment parce que notre club reste ouvert pendant les vacances. Mmh. Voilà,
Faites des stages aussi,
Oui, on fait des stages pour les jeunes, absolument. Ah, voilà, ça les occupe bien. Et puis surtout, ça a une superbe vertu, hein, c'est d'éviter que nos plus jeunes soient devant les écrans trop longtemps en journée. Donc oui, on fait des stages pendant les vacances.
Oui, et puis vous savez qu'il y a un club dans le 13e, hein, d'escrime, on les a reçus.
Oui, il y a un très très bon club.
À ce micro.
Hein. Absolument, un très très bon club.
À ce micro,
oui. Oui, non, il n'y a aucun problème, on s'entend bien avec tous les clubs. Il faut reconnaître qu'il y a un très très bon travail de formation. Et le maître d'armes les amène au plus haut niveau, chapeau. Mm-hmm.
Alors, la force de votre sport, on en parlait un petit peu aussi hors antenne, c'est que c'est un sport qui a commencé à devenir un petit peu télégénique. Parce que c'était un petit peu difficile de suivre à un moment l'escrime. À la télé.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que
c'est pas toujours évident de comprendre. Justement, je parlais des conventions d'armes tout à l'heure, avec la priorité à celui qui a le bras allongé. C'est pas toujours facile de d'apprécier qui a la priorité. Alors derrière un écran, parfois, je ne comprends pas les décisions des arbitres. Donc, j'imagine que pour un non-initié, c'est pas simple. Finalement, l'épée est l'arme la plus simple à comprendre puisque c'est le premier qui touche qui marque. Après, de toute façon, il faut aller voir de l'escrime. Je dirais de façon réelle.
Maintenant, donc c'est bien pour le spectateur. Voilà.
Oui. Et puis, quand on est derrière une piste, on comprend vraiment l'effort technique, physique. Il y a beaucoup d'engagement. Ça change complètement la vision que l'on peut en avoir uniquement en regardant l'escrime derrière un poste de télé. Donc, à Paris, on a la chance de pouvoir voir une Coupe du Monde au mois de janvier, de fleurer. Il y a de l'épée aussi qui est souvent organisée au niveau international à Paris. Il y a des championnats de France régulièrement. Donc, il faut vraiment aller voir ces compétitions pour de vrai. Ça donne une autre image, une autre dimension au sport.
Et puis, pour finir, on va rassurer les parents, il y a très, 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 très peu d'accidents.
Ah oui, ça c'est vrai. Hein ? Ça c'est vrai. Moi, j'ai jamais été... Ça fait 45 ans que je fais de l'escrime. Et que ce soit à titre personnel ou dans les compétitions ou en tant que dirigeant, il y a quasiment pas de... Enfin, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien parce qu'aujourd'hui, on a des équipements qui protègent complètement les enfants, les adultes. Et puis, voilà, on a des très bons équipementiers aussi en France. Donc, aucun souci par rapport à ça.
Très bien, merci Nicolas. Si on peut vous rejoindre, donc il y a un site internet ou alors on attend maintenant en septembre ?
Oui. Si les jeunes veulent nous rejoindre au club d'escrime de la Tour d'Auvergne, le mail du club, c'est club@escrime-ta.com. Donc, on est dans le 9e arrondissement. Mais il y a aussi dans beaucoup d'autres arrondissements, plein de clubs d'escrime qui seront prêts à vous accueillir. N'hésitez pas surtout à franchir la porte d'une salle d'armes.
Eh ben, ça sera le mot de fin. Merci en tout cas pour votre présence et pour cette émission très dense et très riche. Merci à Jason pour avoir été à la technique ce soir. Cette émission elle sera comme toutes les émissions rediffusables en podcast très rapidement. Belle soirée à toutes et à tous. Je passe le témoin à mes copains de Au bout du foot d'ici quelques minutes. En attendant, on finit comme chaque lundi en musique. Et vive le printemps et vive le sport.
Voilà. Et belle soirée à tous.
Belle soirée à tous.
Merci, au revoir.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Would you capture it? Would you
just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbity choke. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. As we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only